Europe 1 Midi, Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe 1 Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une, surprise à la CGT, c'est Sophie Binet qui remplace Philippe Martinez au poste de secrétaire général de la CGT. Qui est-elle ? Est-elle plutôt radicale, plutôt réformatrice ? Jean-Luc Bougeon, dans un instant, au congrès de la CGT à Clermont-Ferrand. Ce sera dès le début d'Europe 1 Midi. L'inflation se calme grâce à la baisse des prix de l'énergie. Mais attention, attention, cela cache une très forte augmentation des prix de l'alimentation, nous détaillera Baptiste Morin. On sera également à midi 20 en direct avec Nadia Ziane, de Famille Rurale, et avec vous, bien sûr, au 39-21. L'immigration augmente nettement en France. Plus de 10% des personnes vivant en France sont nées à l'étranger. Qu'en pensez-vous ? Vous appelez le 39-21 et on en parle. On sera également avec Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les vendredis thématiques sur Europe 1, pourquoi la France n'en a pas fini avec ses tentations, avec ses démons révolutionnaires ? Stéphane Sirot, historien des relations sociales, sera avec nous. La tendance météo, Anissa Haddadi, nous avons un temps très agité pour ce dernier jour du mois de mars. Hein.
Oui, c'est la tempête Matisse qu'on surveille depuis le milieu de la semaine qui s'est formée dans l'Atlantique et qui touche aujourd'hui, comme prévu, la France et en particulier le nord-ouest du pays. La Manche et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange, vent fort. Ça va souffler très fort sur tout le pays et attention, cet après-midi, de nombreux orages se déclenchent. Ça reste toujours calme au bord de la Méditerranée avec des températures de saison comprises entre 11 et 21 degrés.
Anissa Haddadi, merci Anissa. Et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1 Midi.
Elle est la première femme à occuper ce poste depuis la création de l'organisation en 1895. La secrétaire générale de la Fédération des cadres CGT, Sophie Binet, est devenue, à la surprise générale, on l'a appris ce matin, secrétaire générale de la CGT. Elle remplace Philippe Martinez. Jean-Luc Bougeon, vous êtes à Clermont-Ferrand pour Europe 1. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Clermont-Ferrand, où se tient le congrès de la CGT. Sophie Binet a donc battu Marie Buisson, pourtant grande favorite et protégée du secrétaire général sortant, Philippe Martinez.
Effectivement, le comité confédéral, c'est-à-dire le Parlement de la CGT, n'a pas accepté tout au bout de la nuit la candidature de Marie Buisson, favorite et candidate de la direction sortante. Elle a été jugée trop modérée. Il n'y a pas eu d'unanimité non plus sur la personne de l'outsider Céline Verzelletti, qui était, elle, plus radicale. Et c'est donc le nom de Sophie Binet qui est sorti du chapeau ce matin après 8 heures d'intense tractation.
Alors Jean-Luc, qui est Sophie Binet, ce nouveau visage de la CGT ?
Bah déjà, il va falloir vous déshabituer, hein, parce que ce sera fini des moustaches de Philippe Martinez. Au contraire, il va falloir maintenant regarder et s'habituer à Sophie Binet, cette femme de 41 ans, des yeux clairs, une coupe au carré et un ton très volontaire. Petit aperçu ce matin à la fin de son premier discours de toute nouvelle secrétaire générale.
Je crois que notre congrès, c'est d'abord un message fort, déterminé au gouvernement, au patronat et à Emmanuel Macron. Nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien, à commencer par notre exigence de retrait de cette réforme des retraites.
Voilà, le ton est donné. Alors Sophie Binet n'incarne pas quand même l'aile dure de la CGT. C'est une ancienne conseillère d'éducation issue de la Fédération des ingénieurs, cadres et techniciens. Et donc, vous l'avez dit, c'est la première femme à la tête de la CGT en 128 ans d'existence. Et c'est un profil qui plaît à ses deux délégués CGT, Jessica Lenier de la Fédération des cheminots et Didier Sibyl de la métallurgie.
C'est très bien. On a une femme, première secrétaire générale femme, qui est jeune, qui est cadre. C'est un bon signal envoyé, comme quoi on peut défendre aussi des idées rassembleuses, même auprès des ouvriers en étant cadre. Et ça, c'est un très bon signal envoyé. C'est la nouvelle image de la CGT.
Elle n'est pas modérée. Hein. Faut pas croire parce qu'elle est issue des cadres qu'elle est modérée. Elle va tout à fait au charbon. Elle a tout à fait le potentiel pour aller négocier. Si à un moment donné, elle est retenue par les gens, c'est qu'elle tient la route.
Alors malgré tout, elle devra donner des gages à l'aile la plus dure du syndicat. Elle a d'ailleurs bien pris soin de s'adresser à Olivier Matteux, vous savez, le bouillant cégétiste marseillais. Donc elle lui a rendu, après avoir rendu un hommage appuyé à Philippe Martinez, hein, ce qui montre bien le grand écart qu'elle devra opérer. Elle va devoir rassembler les deux ailes de la CGT qui est apparue très divisée lors de ce congrès. Et pour ce faire, rien de tel que cette déclaration d'intention assez guerrière à la fin de son discours. Mercredi prochain, elle dit, je serai dans le bureau d'Elisabeth Borne pour exiger le retrait total de la réforme des retraites.
Jean-Luc Bougeon en direct de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup Jean-Luc. Et après Emmanuel Macron, hier, Elisabeth Borne est à son tour en déplacement. Aujourd'hui, la Première ministre visite une école primaire dans la Nièvre, aux côtés de Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation. Alexandre Chauveau, vous êtes sur place. Bonjour Alexandre.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
L'exécutif veut montrer qu'il continue à avancer après la séquence des retraites, même si la réforme est encore évidemment dans tous les esprits. On vient de le voir justement au congrès de la CGT, hein.
Oui, absolument. Elisabeth Borne a pourtant fait des annonces il y a quelques minutes en faveur de l'école en milieu rural, mais l'importance du dispositif policier sur la route qui mène à cette école primaire rappelle le climat social tendu qui entoure ce déplacement. Alors contrairement au président hier, la première ministre n'a pas eu de comité d'accueil de la part des syndicats et on l'a vu plus détendue, plus souriante aussi au milieu des élèves tout à l'heure, loin de la tension de l'Assemblée, même si effectivement la réforme des retraites n'est jamais très loin. Écoutez Elisabeth Borne à l'instant sur la nécessité de dialoguer et d'élargir sa majorité.
On est dans une situation de majorité relative, ça ne vous a pas échappé. Dans ce cas, on n'a pas le choix, il faut qu'on puisse dialoguer. Et c'est comme ça, c'est la condition pour qu'on puisse apporter les réponses qu'attendent les Français.
La première ministre, dont le poste pourrait être menacé, veille donc à suivre à la lettre la feuille de route dressée par Emmanuel Macron. Priorité à l'éducation, à la santé et à l'écologie. Elisabeth Borne qui poursuivra ses échanges encore quelques heures avec la communauté éducative ici à Nevers.
Alexandre Chauveau en direct de Nevers. Merci beaucoup Alexandre. On va parler des prix, du pic inflationniste. Est-il enfin derrière nous ou pas? Après avoir atteint 6,3% en février sur un an, l'inflation a ralenti au mois de mars. Plus 5,6% selon la première estimation de l'INSEE. Baptiste Morin avec nous. Bonjour Baptiste.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Comment ça s'explique ce ralentissement?
Eh bien, c'est l'effet de l'énergie. En fait, c'est une baisse en trompe-l'œil. Vous l'avez dit, 5,6% en mars, après 6,3% en février. Dans le détail, c'est donc le poids de la baisse des prix de l'énergie. En mars, ils augmentent de 4,9% sur un an. C'était 14,1% sur un an en février, le mois dernier. Par exemple, j'ai regardé sur un mois, le prix du mégawattheure de gaz a baissé de 34%, de plus de 60% sur un an. Alors pour le reste, eh bien, les prix des produits alimentaires, ils augmentent de 15,8% en mars sur un an. C'est un point de plus encore qu'en février. Se nourrir coûte toujours de plus en plus cher en France.
Alors justement, l'INSEE publie aussi ce matin l'indice de la consommation des ménages. Et la consommation des ménages baisse.
Oui, c'est le chiffre du mois de février que publie l'INSEE. C'est en volume, soulignons-le. Et donc la baisse est donc de 0,8% sur un mois, de 5% presque sur un an. Et là aussi, c'est intéressant d'aller dans le détail. La consommation alimentaire baisse de 1,2% sur un mois. Sur un an, elle baisse de 8,3%. C'est dire si, pour le même prix, le nombre de produits dans notre caddie s'est bien réduit ces 12 derniers mois.
Merci beaucoup Baptiste Morin. On va continuer à parler dans un instant de l'inflation, de nos efforts. Il n'y a pas d'autre mot, de nos efforts pour moins consommer, pour s'adapter surtout. L'inflation sur un an qui ralentit mais qui reste puissante. On en parle avec Nadia Ziane, directrice consommation de l'association Famille Rurale. Voilà, et les prix de l'alimentation qui explose, plus 15%. Cérémonie d'hommage au gendarme Arnaud Blanc, ce matin à Versailles. Âgé de 35 ans, il a été tué samedi dernier lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal, vous savez, en Guyane. Père de deux enfants, celui qui avait intégré l'antenne du GIGN de Cayenne en 2019, a été fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume par le président de la République. Arnaud Blanc est le premier gendarme français tombé sous les balles des chercheurs d'or clandestins brésiliens, donc en Guyane. Emmanuel Macron a tenu à lui rendre hommage ce matin.
Ses camarades sont là pour le porter et le raconter. Décrire ses qualités de gendarme et d'âme. Son perfectionnisme, sa profondeur, sa gaieté, cet alliage unique de sérieux et d'humour, cette manière de braver le danger, la pudeur du courage. Celui qu'on surnommait Blanca avait bien l'âme d'un soldat de la France, souriant et libre. Il avait compris que la noblesse de son uniforme était de pouvoir protéger chacun, en rempart du droit, en soldat de la loi, jusqu'au bout. Nous avons désormais une dette d'engagement envers lui, pour reprendre ce à quoi il avait dédié sa vie.
Emmanuel Macron ce matin, des propos recueillis par Simon Bourtembourg pour Europe 1. Des rassemblements ont été organisés à Paris et dans plusieurs villes contre la violence policière hier. Les manifestants répondaient à l'appel de soulèvement de la terre dont le ministre de l'Intérieur a réclamé la dissolution. Gérald Darmanin, qui tient l'association pour responsable des affrontements du week-end dernier à Sainte-Soline. Des scènes de guerre, des scènes de chaos, c'est le dossier des vendredis thématiques d'Europe 1. La France est-elle en train de renouer avec ses démons révolutionnaires? On va s'intéresser à un militant qui inspire beaucoup d'activistes radicaux. Son nom, c'est Andreas Malm. Figure peu connue du grand public chez nous, mais ce Suédois de 45 ans est très suivi par la mouvance écologiste radicale. William Molinier avec nous. Bonjour William.
Bonjour Romain.
C'est justement cet homme qui a théorisé la violence comme nouveau mode d'action.
Ouais, il débute son engagement activiste dans les années 90. Il s'engage dans un premier temps pour la cause palestinienne et contre l'impérialisme américain avant de participer à des mouvements de désobéissance civile. Andreas Malm prend ensuite le virage de l'écologie radicale. On est alors au début des années 2010. Il devient un des principaux théoriciens du genre. Son cheval de bataille, faire accepter par l'opinion publique le principe de sabotage pour la cause environnementale. Autrement dit, normaliser le recours à l'éco-sabotage. Le message est entendu. Il séduit notamment une partie des militants de l'extrême gauche jusqu'à l'Institut La Boétie, le think tank de la France insoumise. Il y a d'ailleurs été invité à deux reprises depuis le début de l'année. Alors, chacune de ces réunions dans l'Hexagone est suivie de près par les services de renseignement. Ils s'inquiètent notamment de voir des activistes jusqu'ici modérés être réceptifs à l'idée de la dégradation matérielle qu'ils considèrent désormais comme légitime, bien qu'illégale.
La France qui n'en a pas fini avec ses démons révolutionnaires. On va en parler dans un instant avec Stéphane Sirot, qui sera avec nous dans Europe Midi. C'est un spécialiste des relations sociales. Il est historien, sociologue du syndicalisme, des relations sociales, professeur d'histoire politique. Il sera avec nous à partir de midi et demi. Et on en parlera également avec vous au 39-21. Merci William Molinier. Il est midi 11. Restez bien sur Europe 1, bien sûr. Dans un instant, on va aller aux États-Unis. Donald Trump, inculpé, il va passer devant un procureur mardi prochain. À tout de suite.
Europe 1 midi, Romain Desarbres.
Donald Trump devant un tribunal mardi prochain. L'image promet d'être frappante et de faire le tour du monde. Cette nuit, un grand jury a voté l'inculpation de l'ancien président des États-Unis, accusé d'avoir soudoyé, juste avant son élection en 2016, une actrice de film X avec qui il aurait eu une liaison. Anne Toulouse, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Un ex-président devant la justice américaine, c'est totalement inédit, hein?
Oui, c'est un événement historique car c'est la première fois qu'un président des États-Unis est inculpé et cela pose beaucoup de questions. D'abord logistique, en tant que président, Donald Trump doit être sous la protection constante des services secrets. Ils devront donc l'accompagner pendant tout le rituel de l'arrestation qui consiste à prendre ses empreintes, peut-être sa photo. La question des menottes fait partie des négociations entre l'entourage du procureur et celui du président. Cela devrait être réglé d'ici mardi prochain lorsque Donald Trump se présentera au tribunal de son plein gré, à moins qu'il décide d'y être traîné par la police. Ce n'est que lorsqu'il comparaîtra devant le juge que l'on connaîtra le fond d'une affaire qui a commencé en 2016 par l'achat du silence d'une actrice porno prête à vendre le récit de ses ébats avec Donald Trump. Y a-t-il eu davantage qu'un faux en écriture pour camoufler le paiement ? Donald Trump plaidera non coupable et devrait repartir libre entre ses avocats jusqu'au procès. Il souhaite vraisemblablement la présence des caméras pendant toute la procédure. Cela fait partie de la pression qu'il fait monter à la fois sur le monde politique et sur ses supporters.
Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, Donald Trump qui espérait briguer un nouveau mandat en 2024 et qui dénonce une chasse aux sorcières. Sur Twitter, son fils Eric Trump fustige un acte opportuniste visant un opposant politique en pleine campagne électorale. Le Festival de Cannes confirme ce matin la venue de Martin Scorsese qui présentera en sélection officielle et en avant-première son nouveau film Killers of the Flower Moon. Une enquête policière qui se déroule dans les années 20 dans l'Oklahoma avec Leonardo DiCaprio, avec Robert De Niro, le réalisateur américain Scorsese qui n'avait pas présenté de film en compétition sur la croisette depuis 1986 avec After Hours, lancement de cette 76e édition cannoise le 16 mai prochain. On aura l'occasion d'en reparler. Le sport, c'est officiel, Hervé Renard est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de foot. Contrat signé hier à 54 ans, il succède donc à Corinne Diacre. Il donne en ce moment sa première conférence de presse au siège de la Fédération. On y retrouve Cyril de la Morinerie sur place pour Europe 1. Cyril,
oui,
ça va?
Ça va et vous?
Bon, très bien. Le nouvel entraîneur va avoir du pain sur la planche, hein?
Oui, alors d'abord, ce que je peux vous dire, c'est que la conférence de presse va débuter avec un petit peu de retard. Hervé Renard va s'exprimer. C'est pour ça que vous ne l'entendrez pas là dans un instant sur Europe 1, mais il va s'exprimer dans quelques minutes devant une trentaine de journalistes en tant que nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, au siège donc de la fédération pour cette conférence de presse qui se trouve dans une salle au rez-de-chaussée. C'est une cinquantaine de places, c'est fauteuil rouge. En fait, c'est là où Didier Deschamps et Corinne Diacre s'expriment. Et donc Hervé Renard va prendre cette place. Il va s'exprimer après avoir été choisi par Philippe Diallo, qui sera présent, le nouveau président de la Fédération Française de Football, aidé dans ce choix par Jean-Michel Aulas, ce président de l'OL, Aline Riera, Laura George, ancienne joueuse, et puis Marc Keller, président de Strasbourg. Cette nomination vient d'Hervé Renard, qui a été acceptée puisque le technicien de 54 ans a signé hier après-midi son contrat. Il va répondre à de nombreuses questions, notamment pourquoi accepter ce challenge alors qu'il n'a jamais entraîné d'équipe féminine. Va-t-il rappeler les frondeuses comme Wendy Renard ou Marie-Antoinette Cototo qui s'était mise en retrait de la sélection. La troisième joueuse, Khadija Toudiani, elle s'est blessée hier soir à la clavicule avec le PSG en Ligue des Champions, donc elle est de toute façon forfait. Hervé Renard qui annoncera sa liste dans quelques jours et il dirigera son premier match contre la Colombie, ce sera vendredi prochain à Clermont.
Cyril de la Morinerie, merci beaucoup Cyril, il est midi 17, c'est l'heure de la bourse.
Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent Rendez-vous Bourse.
La Bourse avec vous Didier Hamot. Bonjour Didier.
Bonjour Romain.
Didier Hamot de boursier.com, ça donne quoi à Paris?
Ça monte encore, cinquième séance d'hausse consécutive, ça veut dire que la semaine a été entièrement verte. Le CAC 40 gagne 0,5%, 7300 points de retour à environ 1% des records historiques d'il y a un mois. Le ralentissement de l'inflation qui se confirme en Europe soutient la tendance avec surtout la baisse des prix de l'énergie. De quoi faire grimper quelques gros dossiers aujourd'hui comme Danone, comme Carrefour en hausse de 1 à 2%, Orange aussi plus 2%. Ailleurs en Europe c'est pareil, hein. Francfort monte de 0,3%, Madrid plus 0,1%, Milan plus 0,2%, le CAC 40 plus 0,5%, 7300 points.
Le précédent record il y a un mois, 7300.
On était à 7400 à peu près.
7400, oui. Merci beaucoup Didier Hamot.
Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé? C'était Rendez-vous Bourse avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr.
La météo à présent, la météo avec Anissa Haddadi, avec deux départements, attention, vigilance orange, hein.
Oui, il s'agit de la Manche et du Pas-de-Calais. Vigilance orange au vent fort. On attend des rafales à plus de 110 km/h dans l'intérieur du Pas-de-Calais, 120 km/h sur les côtes de la Manche. Mais c'est pas tout, hein. Ça souffle partout cet après-midi. Ça va souffler dans les terres. Aucune région n'est épargnée, à part peut-être le pourtour méditerranéen. Et encore, on a de la tramontane, hein, jusqu'à 80 km/h. On a du vent partout, jusqu'à 90 km/h dans les terres. C'est assez rare. En Alsace, en région parisienne, en Auvergne, dans les Alpes, jusqu'au Poitou, jusqu'en Nouvelle-Aquitaine. Ça souffle fort aujourd'hui. Vous rajoutez à cela des averses fréquentes, plus des orages qui éclatent sur le grand quart nord-est et même jusqu'en Auvergne. Voilà, de nombreux orages partout. Sur le pourtour méditerranéen, c'est plutôt calme avec quelques passages nuageux, mais la tramontane, attention, qui se réactive cet après-midi. Une journée très agitée sous des températures qui, elles, restent de saison avec 11 à 15 degrés sur les deux tiers nord et jusqu'à 21 degrés en Corse.
Merci Anissa. Il est midi 19. On parle de l'inflation, de l'augmentation des prix. L'inflation qui a tendance à se calmer quand on prend tous les prix en compte. En revanche, quand on se penche sur l'alimentation, j'ai les chiffres, hein, sous les yeux, 15,8% sur un an, plus 15,8% sur un an pour l'inflation concernant les prix de l'alimentation. On en parle dans un instant avec Nadia Ziane et avec vous au 3921. A tout de suite sur Europe 1.